Amen. Béni soit Dieu. Voilà, et bien nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 65. On a pas mal tourné autour du psaume 65 ces derniers temps. On va encore lire juste un verset. Le verset 5. Voilà ce que David adresse comme proclamation à Dieu. Et lui dit la chose suivante. Il s'adresse à Dieu et lui dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Voilà un petit texte qui va se diviser tout naturellement en trois parties. La première partie, c'est « Heureux celui que tu choisis ». Ensuite, heureux celui que tu admets dans ta présence. Et enfin, heureux celui donc qui habite dans tes parvis. Voilà. Donc, heureux celui que tu as choisi, ça commence comme ça. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui choisit. Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu choisit certains. Et ce choix, il a des conséquences, il a des effets. Dieu choisit certains. Je prenais connaissance l'autre jour de ce témoignage d'un scientifique qui s'appelait Huang, qui était un Chinois, un incroyant donc, qui était de passage à l'université de Minnesota, aux USA. Et pendant son séjour aux États-Unis, il avait rencontré là quelques chrétiens. Il avait bien apprécié leur compagnie et quand ils ont appris qu'il retournait à Beijing, donc en Chine, il lui donnait le nom d'un chrétien à contacter là-bas. Un chrétien d'ailleurs qui déménageait aussi lui-même là-bas. Voilà. C'est tout. Et en raison de problèmes de moteur, l'avion qui l'amenait à Beijing a été obligé de se poser à Seattle donc pour la nuit. Et la compagnie aérienne a placé Huang exactement dans la même chambre que la personne qu'il devait contacter. Rendez-vous compte de la coïncidence. Et une fois arrivé à Beijing, les deux ont commencé à se rencontrer une fois par semaine pour une étude biblique. Et un an après, Huang a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le plan de Dieu, c'était le choix de Dieu. Dans le livre de Ruth, on lit, par exemple, « Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre où Ruth glanait appartenait à Boaz. » Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire, mais on voit bien que le par bonheur, ce n'est pas de la chance. C'est un choix de Dieu, c'est une direction de Dieu qu'il y avait dans l'affaire. Et puis donc, ça a amené, par cause à effet, donc, ça a amené donc la bénédiction de Ruth, et ça a amené donc son salut, et ça a amené beaucoup de grandes et belles choses. Alors, ces événements qui se passaient, soit dans la vie de Huang, soit dans la vie de Ruth, n'étaient pas de simples coïncidences, mais c'était des plans de Dieu, parce que Dieu les avait choisis. Et quand quelqu'un est choisi par Dieu, eh bien, il y a un bonheur qui va s'accomplir dans sa vie. Et il va être délivré du malheur. Quand quelqu'un est choisi de Dieu, il va faire des expériences de bénédiction, de guérison, de salut. Quand on n'est pas choisi, ben, on ne peut pas faire ces expériences-là. Quand on est choisi par Dieu, Dieu va nous utiliser, ce qui va être très profitable aussi pour nous. Et sinon, Dieu ne va pas nous utiliser, ou alors de manière très occasionnelle. Alors certains vont dire, mais c'est pas normal ça. Comment ça se fait que Dieu choisit certains, qu'il ne choisit pas d'autres? C'est injuste ça. Donc, vous savez, Dieu ne choisit pas comme nous choisissons. Moi, quand je vais faire les courses, puis je dois choisir des carottes, je choisis mes carottes. Je prends les plus belles carottes, bien sûr. Je ne prends pas les plus mauvaises. C'est normal. Dieu ne choisit pas comme ça. Dieu ne choisit pas de cette manière-là. Donc, nous cherchons le meilleur qu'on peut voir. Quels sont les critères du choix de Dieu? C'est intéressant de voir. L'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 27, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise pour celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Et l'apôtre Jacques ajoute sur ce point, dans son épître, au chapitre 2, au verset 5, que les pauvres, Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Voyez-vous, Dieu a des critères très surprenants, vous me direz. Mais effectivement, quand Dieu fait de tels choix, eh bien, les œuvres qu'il va faire vont offrir un tel contraste avec l'état dans lequel la personne était auparavant, que Dieu va être d'autant plus glorifié, voyez-vous. Hein? Donc c'est ça aussi le grand point. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu a utilisé dans son service, prenez le cas de Jésus, des gens tout simples au départ. Hein? Il a pris quoi? Il n'est pas allé à la sortie des universités à Jérusalem. Hein? Il est allé au bord du lac de Galilée. Hein? Et là, il a pris des pêcheurs. Des pêcheurs, comme vous voulez. Hein. Donc voilà, il a pris des pêcheurs, il a pris des hommes simples, des hommes pour la plupart d'entre eux sans grande instruction, on le voit clairement. Hein. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui se croient quelque chose. Pour lui, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 26, « Parmi vous qui avez été choisis, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et oui, c'est vrai, Dieu a choisi, il le dit, nous l'avons lu, les choses folles du monde. C'est quoi un fou? Un fou, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas comme les autres. Un fou, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont illogiques, ou sans but logique, et qui ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde, je trouve, qu'il est fou, hein, quelque part, hein, par bien des côtés. Le monde dans lequel on est, il est fou. Le problème, c'est que bien des gens ne veulent pas l'admettre, ou du moins, s'ils l'admettent superficiellement, ils n'en tirent pas les conséquences. Et même des chrétiens peuvent se retrouver pris par ça. Hein. Je trouvais cette petite anecdote l'autre jour, bon, qui, c'est une image, hein. Mais c'était à partir du passage « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous ». Et là, donc, lors d'une convention mondiale de démons, bon, voilà, Satan s'est exprimé ainsi devant ses acolytes. Bon, c'est une image, je vous le dis bien, mais quand même, ça exprime des réalités. « Tant que les chrétiens se tiennent dans la présence de Dieu, nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Pour éviter cela, voici une dizaine de conseils. Premièrement, surcharger leur emploi du temps de tâches sans intérêt. Deuxièmement, encouragez-les à dépenser sans compter et à s'endetter. Troisièmement, poussez-les à travailler de longues heures afin que leur vie demeure vide et dépourvue de sens. Quatrièmement, dissuadez-les de consacrer du temps à leur famille, car lorsque les foyers se désintègrent, ils ne savent rien faire d'autre que travailler. Cinquièmement, bombardez leur esprit d'images télévisées ou de programmes informatiques pour qu'ils ne puissent plus entendre Dieu leur parler. Sixièmement, disposer partout chez eux des revues et des journaux tous plus attirants les uns que les autres, afin qu'ils n'aient plus le temps de lire leur Bible. Septièmement, remplissez leur boîte aux lettres de toutes sortes de publicités, allant des jeux promotions aux offres miracles pour devenir riches rapidement, encouragez-les à acquérir toujours plus de biens matériels. Ensuite, exagérer l'importance du Père Noël ou des œufs de Pâques afin qu'ils oublient la vraie signification de ces événements. Encouragez-les, point suivant donc, à soutenir les œuvres caritatives, cela leur donnera bonne conscience, ils ne se poseront pas de questions à propos de l'éternité. Enfin, en dixième, aidez-les à se débrouiller tout seuls, ils se dépenseront sans compter, sans jamais éprouver la joie de connaître la puissance de Dieu. Je vous assure que vous réussirez si vous suivez ces 10 conseils. Avoir un emploi du temps surchargé ne signifie pas, pour nous, qu'on a accompli automatiquement la volonté de Dieu. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Et ça peut être dire qu'on est sous la coupe de Satan, hein, sous la coupe de son œuvre mauvaise. Donc voilà, donc le monde est comme ça. Mais ceux qui reconnaissent, quelque part, leur folie, ceux qui reconnaissent leur besoin de sagesse, se mettre dans la bonne position pour que Dieu puisse vraiment agir pour eux. Amen. Amen. Et puis ensuite, que voit-on encore? Dieu a choisi non seulement les choses folles du monde, mais Dieu a choisi, est-il marqué, les choses faibles du monde. Dieu ne choisit pas ceux qui se croient forts. Vous savez, la force, c'est toujours quelque chose de tellement relatif. Hein. Un homme se croit fort. Mais un bœuf est plus fort que lui, hein, par exemple. Hein. Donc, après, vous en avez qui se croient, voilà, ils sont persuadés de leur capacité, ils sont persuadés. Mais Dieu, c'est celui qui a choisi aussi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Et oui, c'est vrai. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Vous savez, notre monde, on voit même des gens qui ont beaucoup de capacités, beaucoup de... Hein, donc ça, c'est une situation qui s'est trouvée aux États-Unis il y a quelques années. Là, vous avez eu un professeur de philosophie à l'université du Nord-Ouest de l'Illinois, donc, qui s'appelait Hugh Morehead, donc, qui a écrit un jour à 250 écrivains, philosophes, intellectuels, savants connus, pour leur demander de répondre à une question. Une question toute simple. Quel est le sens de l'existence ? Il a écrit donc à tous ces gens-là, en posant cette question. Et puis il a fait un livre, toutes les réponses qu'il a reçues. Et puis certains lui ont offert ce qu'il considérait comme de bonnes suggestions, d'autres ont reconnu qu'ils avaient dit n'importe quoi, et plusieurs ont eu l'honnêteté d'admettre qu'ils n'avaient aucune idée, hein, donc ils avaient donc leur totale incompétence dans la matière, et plusieurs lui ont demandé s'il avait lui-même trouvé le sens de l'existence. Vous savez, heureusement qu'il y a une alternative à toutes ces spéculations hasardeuses, hein, qu'on peut trouver. Et cette alternative, eh bien, c'est de prendre cette révélation que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a donnée dans sa parole concernant le vrai sens de notre vie. Et la Bible est là pour nous expliquer pour quelles raisons nous sommes en vie. Quel est le sens de notre passage sur la terre ? Quels sont les pièges qui sont à éviter et ce qui nous attend pour l'avenir. Et là, nous pouvons apprendre ce qu'aucun manuel de philosophie ne va pouvoir nous apprendre. Et la Bible nous dit que la sagesse divine, vient, elle plonge jusqu'au cœur même des desseins de Dieu, jusqu'au cœur même des pensées de Dieu, et que le message qu'elle nous révèle, ce n'est pas simplement la dernière mode, mais ça découle vraiment des temps anciens, lorsque Dieu lui-même a déterminé la meilleure façon de faire éclater sa sagesse en nous. Amen. Et Dieu, ce n'est pas seulement le point de départ de notre existence, mais c'est aussi la source de chaque instant. Et là aussi, pour découvrir le fil que Dieu a voulu pour notre vie, à chacun. Et pour cela, eh bien, il est important de recevoir sa parole, de se tourner vers la Bible pour bâtir notre vie sur les vérités éternelles. Et là vraiment, on aura un avenir. Et là vraiment, on aura une glorieuse espérance. Amen. Alors je reviens à la ménagère, hein. La ménagère, la différence qu'il y a entre la ménagère et Dieu, ben, c'est que la ménagère, elle choisit ses légumes, voilà, hein, comme ils sont là, et puis les légumes ne font rien pour être choisis ou ne pas être choisis, ils sont simplement là. Tandis que Dieu, lui, il attend quand même de notre part une disposition active. Nous avons une part à réaliser, nous avons quelque chose à faire. Hein, donc même si nous sommes peu de choses, et nous sommes peu de choses, eh bien Dieu est quand même celui qui nous observe. Dans le psaume 33, au verset 12, nous lisons « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Voilà, vous avez un Dieu qui est attentif à chacune de nos actions, à chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est la chose qui, moi, en tout cas, m'avait bouleversé, parce que moi, je pouvais bien concevoir qu'il y avait un Dieu bien loin, mais je ne voyais pas ce qu'il pouvait trouver d'intéressant à faire pour moi. Et puis je ne voyais pas non plus ce que moi je pouvais trouver d'intéressant à faire pour lui. Donc c'était mais le jour où j'ai réalisé que ce Dieu, eh bien, était très concerné par mon existence, précisément, eh bien, ça c'est quelque chose qui a profondément bouleversé ma vie. Hein. Donc Dieu nous observe et il choisit un homme selon son cœur. Hein. Là, vous reprenez dans 1 Samuel 13, verset 14, lorsque Dieu explique la raison pour laquelle il a mis Saül de côté et il a choisi David comme roi, eh bien il dit, c'est parce qu'il a choisi un homme selon son cœur. Et David, c'était un homme selon son cœur. Amen. Et ça, c'est important. Je lisais encore l'autre jour ce témoignage, certains ont connu peut-être Michael Chang, qui a été il y a quelques années encore un célèbre champion de tennis. Et voilà ce qu'il a déclaré lors d'un interview. C'était pas juste là encore, c'était pas une façon de se rendre intéressant, mais voilà exactement ce qu'il a dit. Je fais confiance à Christ pour je fais confiance à Christ pour tout dans ma vie. Je suis devenu chrétien à l'âge de 15 ans. Je faisais beaucoup de recherches spirituelles. Je pense que c'est un âge particulier où l'on se pose des questions sur les choses de la vie. Je me posais une foule de questions. Mes grands-parents m'ont donné une Bible. Ils voulaient que je la lise chaque jour. Et un soir, où je n'avais rien de particulier à faire, je décidai de me pencher sérieusement sur la Bible pour voir ce qu'elle avait à me dire. J'ai découvert que les sujets traités par la Bible concernant les relations d'amitié et d'amour en général étaient réellement purs et vrais. Et dans un sens, ils étaient tels que j'aurais aimé conduire ma vie. Alors j'ai commencé à lire la vie de Jésus et à comprendre son amour pour tout le monde. Je l'ai donc accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Est-ce que vous êtes déjà penché sérieusement sur la Bible ? Sur son message, hein? Si nous lisons cette Bible sans a priori, vous savez, avec simplicité, avec humilité, alors Dieu peut agir dans notre cœur par son esprit. Et alors il peut éclairer notre intelligence, il peut éclairer notre cœur. Et alors on découvre combien son amour pour tous les hommes est grand, pour chacun en particulier. Vous savez, la Bible, c'est pas un livre comme les autres, c'est vraiment la parole de Dieu donnée aux hommes. Amen, amen. Et puis, donc, nous parlions d'appel, nous parlions du choix que Dieu fait, hein, donc, effectivement, et de l'attitude active du chrétien. Et puis maintenant, parlons un petit peu des buts de Dieu quand il choisit. Et là, nous retournons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, où le Seigneur dit au verset 16, « Je vous ai choisi, premièrement, afin que vous alliez, deuxièmement, afin que vous portiez du fruit. » Troisièmement, afin que votre fruit demeure. Quatrièmement, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Donc, Dieu nous choisit avec quelque part une mission, quelque part avec des buts bien clairs. Donc, voilà, porter du fruit pour Dieu, du fruit à la gloire de Dieu, notre existence. Elle est là pour que nous portions un fruit d'amour, un fruit de paix, un fruit de joie, un fruit de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous avons été mis sur cette terre pour ça. Hein, donc il y a des gens qui se disent « Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été mis sur la terre. Ah mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ?» etc. J'ai entendu déjà des choses comme ça. Ben, je dis « Mais si Dieu t'a mis là, si Dieu t'a donné le privilège de l'existence, c'est parce qu'il a un plan de bonnes choses pour toi. Il faut que tu entres dans ce plan-là. » Il a un plan pour que tu puisses porter du fruit et que tu puisses être un moyen de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et ça, c'est primordial. Et puis aussi que tu le glorifies, voilà. Et que votre fruit demeure. Et puis aussi parce qu'il veut répondre à tes prières. Il veut que tu apprennes à prier et que tu apprennes que Dieu est celui qui exauce les prières. Dieu te choisit pour ça aussi. Chacun et chacune d'entre nous choisit pour ça. Et là encore, vous avez là, ce merveilleux passage de Jean chapitre 15 au verset 7, donc où il nous est expliqué que si nous cherchons la volonté de Dieu, nous pouvons demander ce que nous voudrions et cela nous sera accordé. Hein? Et là, c'était un témoignage suite à un événement, hélas, dramatique au mois de mai 96, donc ça fait déjà un moment, mais le vol 592 de la compagnie Valuejet s'est écrasé dans un marais des Everglades, c'est en Floride. Il a tué les 110 passagers qui étaient à son bord. Et les experts de la marine, à ce moment-là, on cherche la boîte noire, vous savez, pour savoir ce qui s'est passé. Donc, ils ont utilisé un moyen matériel sophistiqué pour retrouver cette boîte noire. Rien à faire pour la retrouver. Et puis, voilà, des centaines de volontaires qui se sont mis en route à ce moment-là en tenant une corde qui les maintenait à 1,50 m l'un de l'autre. Et puis, ils ont pris la relève, ils ont enfoncé les bâtons dans la vase parce que c'est des marécages, hein, ces endroits-là. Hein. Mètre après mètre, en espérant tomber sur l'objet disparu, ils ont cherché 15 jours comme ça. 15 jours sans trouver, et puis les conditions de travail étaient très dures. Pourquoi ? Parce qu'il faisait très chaud, hein, il faisait jusqu'à 35 degrés, et puis en plus, ben, il y avait des nappes de carburant et de fluide hydraulique, hein, suite à la chute de cet appareil qui flottait à la surface des étangs, et là, il y avait pour porter plusieurs épaisseurs de vêtements caoutchoutés, hein, voilà, par les températures là, vous imaginez. Et donc, au bout de 2 semaines de ce travail, il y avait un chrétien, là, au milieu de toute cette équipe-là, il y en a peut-être plusieurs, en tout cas, il y en avait un, qui c'était le sergent Félix Jimenez, donc, qui faisait partie d'un groupe de policiers qui étaient engagés dans cette recherche. Et puis, pendant ces 15 jours, ben, pendant qu'ils étaient là, et puis qu'ils cherchaient, ben, lui, en même temps, il priait, il a raconté après qu'il priait pour les familles des victimes, qu'il priait pour la sécurité de ses collègues. Et puis, Le 15e jour, dans une pause, il a compris, mais il a dit, mais au fait, j'ai prié pour plein de choses, mais j'ai même pas prié pour la raison pour laquelle nous sommes là. J'ai même pas prié pour qu'on retrouve cette boîte noire. Hein. Donc, là, il a prié, puis il a demandé à Dieu, ben écoute, dirige-nous, dirige-moi. Et puis, donc, ils ont à peine repris le travail de recherche que son bâton a frappé un objet métallique. Hein. Donc, au fond de la vase, il a sorti de l'eau, c'était la boîte noire. Voilà. Puis alors, plus tard, il a écrit dans un journal local, c'est ça qui est intéressant, je crois, hein. Il dit voilà ce qu'il a écrit, son interview. Donc. Je me souviens des longues journées passées à chercher cet enregistreur de vol. Combien de fois n'étions-nous pas passés à côté sans le savoir? Pourquoi cette recherche prenait-elle tant de temps? Soudain, entre le doux frémissement des longues herbes du marais et le cri du héron sauvage, j'ai entendu la réponse divine. Mais pourquoi donc as-tu mis tant de temps avant de me demander de t'aider? Mais pourquoi donc as-tu mis tant de temps avant de me demander de t'aider? Et ça, c'est quelque chose, je crois, on peut vraiment se poser la question pour nous, hein, je crois, dans bien des situations, hein, c'est quelque chose, c'est bien souvent ça notre problème. Hein. L'épître Jacques dit, mais vous ne demandez pas, vous ne recevez pas, pardon, parce que vous ne demandez pas, hein, déjà, il faut déjà la chose. Hein. Donc voilà ce que Dieu désire faire. J'avance et je passe à mon deuxième point, rassurez-vous, ce ne sera pas aussi long. Donc, heureux celui que tu choisis, c'était le premier, le deuxième, et le deuxième c'est maintenant, et que tu admets dans ta présence, et que tu admets dans ta présence. Il faut être choisi par Dieu pour entrer dans sa présence. Dans 1 Samuel 6, verset 20, il est marqué, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint ?» Parce que Dieu, on n'entre pas dans la présence de Dieu, comme on entre, je ne sais pas moi, dans la présence de son professeur ou de... Hein, non. Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu qui nous dépasse de beaucoup. Et ceux qui prononçaient ces paroles dans 1 Samuel 6, verset 20, ils étaient très effrayés parce qu'ils avaient cru justement qu'on pouvait s'approcher de Dieu n'importe comment et ils en avaient subi des conséquences cuisantes. Mais celui qui s'approche humblement de Dieu, eh bien, pour celui-là, Dieu veut accomplir des choses merveilleuses. Amen. Hein. Lorsque certains, par exemple, sont dans la détresse, dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 2, verset 19, il est écrit « Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. » Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Il nous expliquait, par exemple, que Anne, qui allait devenir la mère de Samuel, mais qui ne le savait pas, à ce moment-là, elle n'avait pas d'enfant, et pour elle, elle n'arrivait pas à en avoir. C'était un grand drame, une grande misère. Et puis elle était là, puis en même temps, elle subissait toutes sortes de vexations à cause de cela. Et puis elle était là, devant Dieu, il est marqué qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel. Et le jour où elle a répandu son âme devant Dieu, où vraiment elle s'est confiée simplement au Seigneur, ça a été le premier jour de sa délivrance. Ça a été le moment à partir duquel tout a basculé dans sa vie. Et pendant des années, auparavant, elle était là, elle avait de la tristesse dans le cœur, de l'amertume dans le cœur, elle était vraiment pas bien. Et ce jour-là, le jour où elle a répandu son âme devant Dieu comme de l'eau, eh bien ce jour-là, ça a été le premier jour de sa délivrance. Amen. Hein? Ensuite, dans le psaume 138, verset 1er, il est marqué que quand on se trouve dans la présence de Dieu, on le fait aussi pour le louer. Voilà. Et on le fait en le louant. C'est pour ça qu'il est marqué dans le psaume 138, donc, « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. » Alléluia. Je chante les louanges de Christ en présence de Dieu, en présence du Père. Hein. Et puis, bien sûr, on le prie. Rappelez-vous Abraham. Il nous a expliqué dans Genèse 18, au verset 22, « Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » Donc, et comment se teint-il en présence de l'Éternel? Dans la prière et dans la supplication. C'est parce qu'il était dans cette attitude de vraie prière, de sincère prière. C'est comme ça aussi que Dieu a agi pour lui, que Dieu l'a accepté et que Dieu l'a exaucé. Amen. Enfin, notre troisième chapitre, notre troisième grand point, donc, heureux celui que tu choisis, c'était le premier. Le deuxième est que tu admets en ta présence. Enfin, le troisième, eh bien, qu'il habite dans tes parvis. Qu'il habite dans tes parvis, c'est-à-dire dans ta présence. Et là, vous avez, lorsque vous habitez quelque part, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Donc, habiter dans la présence de Dieu, ça veut dire pouvoir y rester de manière continue, de manière continuelle, régulière. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on apprenne. Qu'on apprenne à être dans la présence de Dieu, à être dans la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas notre tendance naturelle. Hein? Donc, dans l'océan Indien, vous avez des tempêtes qui sont tout à fait spéciales. Hein? Bon, c'est les typhons et puis les tempêtes de mousson aussi. Donc, et ces tempêtes, elles ont la particularité de ne pas se mouvoir rapidement. Elles ne se déplacent ni de l'est vers l'ouest, ni d'une zone nord vers le sud, mais elles tournent en rond. Hein. C'est des tempêtes qui tournent en rond, comme ça, en spirale. Et un capitaine de vaisseau, donc, expliquait que du temps où on ne connaissait pas les caractéristiques de ces tempêtes, chaque fois qu'un navigateur essayait de s'en écarter, c'était le naufrage. Pourquoi ? Parce que la puissance de la tempête se déchaînait de plus en plus contre lui. Et puis, maintenant, il expliquait que quand on est pris dans une tempête de mousson, on essaie de localiser le centre et de se rapprocher de plus en plus du centre. Pourquoi ? Parce que c'est là, au centre, bien, lorsque vous êtes bien au centre, que finalement, bien, vous avez un calme quasiment complet. Hein, donc, et c'est par ce moyen-là qu'on peut échapper à la situation. Je dirais que, quelque part, la volonté de Dieu, c'est comme ça. La volonté de Dieu, si on essaie de s'en écarter, eh bien, c'est vrai, on va être aux prises avec des forces contraires, des forces de destruction. Hein, non pas que Dieu veuille nous détruire, mais le problème, c'est qu'on va être à la merci de n'importe quelle puissance de l'adversaire. Hein. Donc, si on s'engage résolument dans la volonté de Dieu, on va rencontrer le calme et on va trouver aussi cette volonté bonne, agréable et parfaite. Amen. Et c'est pour ça que si on cherche la présence de Dieu, si on cherche sa volonté, eh bien, on va être réjouis dans cette présence et il mettra sa bénédiction dans notre vie. Amen. Mais ça veut dire quand même qu'il faut aussi prendre le temps pour ça. Hein. Pour ça que le temps qui est passé dans une réunion, et une réunion où on bénit le Seigneur, où on se rapproche de lui, c'est vraiment pas du temps perdu, c'est vraiment l'inverse. Hein, c'est vraiment l'inverse. C'est Charles Poré, donc, un homme de Dieu du siècle, du 19e siècle, qui a écrit la chose, c'est la réflexion suivante. Quand nous passons du grand jour dans l'obscurité d'une pièce au volet clos, nous restons quelque temps sans rien discerner. Et si nous ne faisons qu'y passer, nous n'apercevons rien. Mais si nous prolongeons notre arrêt, nous finissons par voir nettement les objets qui nous entourent. Ainsi en est-il de nos têtes à tête avec le Seigneur. Si nous n'avons que quelques moments fugitifs à lui donner, il reste pour nous comme dans une sorte de pénombre. Mais quand nous persévérons à le chercher, il sort de l'obscurité et se manifeste à nous dans sa rayonnante beauté et dans la puissance de sa gloire. Amen. Et ça, c'est une réalité, c'est vraiment une expérience qu'il vaut la peine de faire. Amen. Et à ce sujet, je lis encore dans le psaume 91, ce beau passage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, il demeure devant Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Pourquoi ? Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Parce que tu demeures dans sa communion. Il y a une profonde protection, admirable protection à ce moment-là. Amen. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait aussi ce désir dans nos cœurs. Vous savez, Dieu ne nous force pas, jamais. Hein. Dans le ciel, il n'y aura que des volontaires. Il n'y aura jamais personne qui aura été ramené de force dans le ciel. Hein. Il n'y aura que des gens qui auront vraiment voulu y aller. Hein, donc, et là, vous avez, rappelez-vous, ce désir ardent de David qui disait « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alors déjà, l'Assemblée, c'est une petite antichambre, hein, bien bien loin de la réalité, mais quand même, déjà, il y a des grâces et des bénédictions qui sont répandues. C'est un chrétien grec, M. Carteroulis, donc, qui a été pendant plusieurs années commissaire aux comptes au Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui racontait donc de laisser ce témoignage qu'il y a dans son pays un certain temple, qui a été construit depuis des siècles, et quand on y entre, on respire aussitôt les effluves d'un délicieux parfum. Et pourtant, vous n'avez aucun vase de parfum, aucune fleur qui attire l'attention dans ce temple. Il s'agit d'un parfum qui a été versé jadis à profusion dans le mortier qui a servi à lier les pierres de cette construction, et les senteurs de ce parfum continuent à s'exhaler. Donc. Et il ajoutait, ce chrétien, dans l'édifice spirituel des pierres vivantes que constitue l'Assemblée de Dieu, scellée par le don merveilleux du Saint-Esprit, le parfum de Christ continue à s'exhaler, il doit être perçu et agir dans le cœur de tous. Et ceux qui s'attachent à l'Assemblée peuvent déjà commencer à faire ainsi l'expérience de la bénédiction que Dieu accorde à ceux qui sont dans sa présence. Amen. Et puis enfin, bien pour parler de ces bénédictions qu'il y a dans la présence de Dieu, je veux conclure en donnant le témoignage d'un homme que plusieurs d'entre nous, dont plusieurs ont entendu parler déjà, qui s'appelait Georges Müller, qui est un homme de foi aussi, qui a fait des expériences absolument extraordinaires et étonnantes de réponse à la prière de Dieu, qui a eu un très grand ministère, en particulier aussi pour s'occuper d'orphelinats, des milliers d'orphelins donc en Angleterre dans une période, en Grande-Bretagne dans une période où il n'y avait pas de services sociaux, pratiquement pas. Donc voilà, Dieu a répondu à ses prières. Et voilà ce que dit ce témoignage, c'est que Georges Müller, qui était quand même d'une santé délicate, il était sujet à des malaises graves, donc qui lui ont fait plusieurs fois que les médecins ont dit qu'il n'en aurait plus pour longtemps à vivre, qu'il était atteint d'une maladie incurable, donc, et quand il est arrivé à l'âge de 92 ans, il a dit la chose suivante, il a écrit la chose suivante: « J'ai été rendu capable, tous les jours, et tout le jour, de travailler, et cela avec le même plaisir qu'il y a 70 ans. » Il dit « J'attribue cela à trois causes. Première cause, d'avoir toujours veillé à garder une bonne conscience, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes. » Deuxième cause, à mon amour des Écritures, à leur action bienfaisante sur tout mon être. Et il citait le passage de Proverbes chapitre 4, verset 22, que je m'en vais vous lire, sans tarder, verset 20 déjà. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Voyez-vous ? Donc voilà, deuxième raison. Et puis la troisième raison, il disait, c'est à la joie qu'il trouvait dans la présence de Dieu et dans l'œuvre du Seigneur. Et ça le gardait de toute anxiété, de tout fardeau inutile, comme de toute précipitation. Quel merveilleux trésor de ceux qui ont pu trouver cela, hein, qui ont pu réaliser cela et qui veulent mettre ça en œuvre dans leur vie. Alors, en conclusion, rappelons simplement plusieurs de ces choses que nous avons évoquées. Premièrement, c'est Dieu qui choisit. Et il est juste qu'il le fasse ainsi, parce qu'il le fait bien. Hein. Les critères de Dieu, rappelons-nous, sont inhabituels, mais en fait beaucoup plus justes que les nôtres. Hein. Il choisit des gens, ben voilà. Okay. Donc, et il nous faut reconnaître nos propres manques, nos propres faiblesses devant Dieu, nos incapacités, notre besoin de lui. Ça, c'est le meilleur moyen qu'on soit choisi par lui. Voilà. Hein. Et puis, il nous faut avoir, là aussi, ben, quand même une attitude active pour être choisi. Chercher le Seigneur. Hein. Et si nous cherchons le Seigneur, nous ne serons pas déçus. Alléluia. Parce que celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe, dit le Seigneur. Hein. Et puis en ayant ce but de porter du fruit pour lui aussi et d'apprendre à prier avec foi et persévérance. Et la meilleure des choses, c'est d'être admis dans sa présence et d'y demeurer pour toujours. Amen. Amen. Te remercions, notre Sauveur, notre Dieu, de ce que tu es encore le Tout-Puissant, le Vivant. Et merci, Seigneur, de ce que tu es encore vraiment celui qui soutient ta parole et qui la confirme, Seigneur, et qui veut encore nous faire du bien les uns et les autres aujourd'hui par le moyen de cette parole et par l'action de ton esprit dans nos âmes. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci parce que tu es encore celui qui veut accomplir tes promesses. Tu es toujours le même, Seigneur. Tu ne changes pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que nous pouvons nous adresser à toi, Seigneur, comme lorsque on pouvait s'adresser à toi en Palestine quand tu étais sur la terre. Et tu es le Tout-Puissant, tu es encore même plus puissant qu'à ce moment-là, si on peut s'exprimer ainsi, parce que maintenant c'est la puissance de la résurrection qui est manifestée encore aujourd'hui. Et c'est pour cela, Seigneur, qu'il est bon de s'approcher de toi, qu'il est bon de se tourner vers toi, il est bon de chercher à être dans ta bonne présence et dans ta bonne communion. Merci notre Sauveur. Amen.